France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Mentez-vous, mentons-nous. Évidemment, pas toujours, heureusement, parfois, et bien entendu, toujours pour la bonne cause. Lorsque l'on dit cela, lorsque l'on s'est couvert ainsi, on n'a pas dit grand-chose, on n'a pas parlé des mensonges par omission, des mensonges collectifs, des mensonges de l'image, des mensonges de l'art. L'art pour lequel le mensonge, paraît-il, est une nécessité. On n'a rien dit non plus des mensonges faits pour compenser la réalité, et l'on n'a pas également parlé des êtres qui ne peuvent vivre que dans le mensonge, car ce sont des êtres qui, tout simplement, ont toute la journée la nostalgie de la nuit, paraît-il. Mensonges vrais, mensonges faux, mensonges qui sont la sincérité des comédies, mensonges des rengaines à la mode, mensonges des images d'actualité. Voici une étrange émission, agréablement fourre-tout, présentée par un homme célèbre qui déteste le mensonge, comme il se doit. La clé des mensonges, première diffusion sur la chaîne nationale, le 21 janvier 1951.
Bonjour, ici Yves Montand. Nous avons été réunis par Gérard Herzog ce soir, Georges Neveu, Paul Guimard, René Guilly, Francis Carcot, Thierry Monnier, Yvonne Printemps, Pierre Freinet, Jean-François Noël, Marcel Achard, Jeanne Marquen et moi-même pour vous parler du mensonge, des mensonges, du mensonge en bloc, quoi.
Puisque vous présentez l'émission, vous devez avoir une affection particulière pour le mensonge.
Ah, au contraire. Je déteste le mensonge et je déteste les menteurs. Mentir, c'est toujours une lâcheté. Et un lâche, c'est capable de tout ce que je déteste. Pour moi, un menteur, c'est comme un mouchard, un donneur. Bien sûr, je mens. Je ne dis pas à un malade condamné qu'il va mourir. Je dis bonjour à des gens que je ne peux pas piffer. Mais c'est du mensonge pieux. C'est de la politesse ou de l'humanité.
Ça, c'est le mensonge de tous les jours. Avec Marcel Achard, nous pensions parler d'un autre mensonge. Du mensonge de l'art.
Dans la chanson, par exemple, il y a une façon de mentir, comme dans le théâtre, le cinéma et même la poésie. Nous, nous appelons ça du bluff. Le gars qui débute cherche à se faire remarquer. Il se montre sous son meilleur jour, il cherche à cacher ce qui ne lui est pas favorable, et ça, c'est une façon de mentir qu'on pardonne plus facilement en général. Là encore, je suis contre le mensonge. Qu'il soit connu ou pas, un gars qui chante a des qualités, on n'en a pas. Ce n'est pas en l'enveloppant de papier de soie qu'il augmentera son talent. Je crois que la seule façon de faire quelque chose qui soit bien, c'est de se présenter carrément, d'être sincère, d'être soi le plus simplement possible. Ça accroche, ça n'accroche pas. C'est un peu mystérieux. Mais ce n'est pas le bluff qui changera quelque chose, et le public ne s'y trompe pas longtemps. Je dirais même que si le public sent qu'on veut lui forcer la main, si on lui présente à grands frais une marchandise qui n'existe pas, ça l'irrite. Il se sent volé et il réagit dans le sens contraire.
Dans le théâtre, le problème est un peu différent. Et si vous voulez bien, nous allons en parler, Marcel Achard et moi.
Eh bien, Jeanne Marquen, faisons d'abord un aveu. L'émission s'appelle « La clé des mensonges » et c'est un jeu de mots. Mais c'est un jeu de mots qui veut peut-être dire quelque chose. Georges Neveu le pense en tout cas.
La nuit... La clé des mensonges s'appelle la clé des songes. Et la clé des songes, malgré les apparences, nous fait entrer dans le monde des vérités. Oh, bien sûr, ce sont des vérités masquées, pailletées, travesties, des vérités en robe de bal, mais des vérités quand même. Dis-moi qui tu hantes en rêve, et je te dirai qui tu es. Tenez un exemple. C'est d'ailleurs le seul dont je me souvienne. Voici. Il y a quelque temps, un soir, J'avais retrouvé un conte, écrit autrefois et pas terminé, et j'avais essayé de lui donner une fin, sans réussir d'ailleurs. Cette nuit-là, j'ai fait le rêve suivant. Sur un tableau noir, deux chiffres s'écrivaient tout seuls, à la craie, puis s'effaçaient, puis s'écrivaient de nouveau. Ces chiffres étaient un 0 suivi d'un 9, et entre eux, il y avait le signe d'égalité, ce qui voulait dire 0 égale 9. 0 égale 9. Ce rêve absurde m'avait tout de même laissé au réveil une assez forte impression. Malgré moi, je me demandais d'où il m'était venu, ce qu'il pouvait bien vouloir dire. Et soudain, j'ai éclaté de rire. Je venais de trouver la clé de ce rêve. Et ce rêve me disait tout simplement ceci. Pour faire du 9, il faut partir de 0. C'est-à-dire ne pas reprendre un travail déjà ancien. 0 égale 9, c'était un conseil déguisé en jeu de mots, une vérité déguisée en mensonge. Je crois que comme celui-là, presque tous nos rêves sont des conseils et des vérités qui prennent l'air à la faveur de la nuit. La clé des songes, si nous la possédions vraiment, si nous pouvions grâce à elle déchiffrer nos rêves, elle nous donnerait chaque matin des pouvoirs extraordinaires et qui changeraient peut-être notre vie de chaque jour. D'ailleurs, à mon avis, les mensonges du jour, sont révélateurs comme les songes de la nuit. Bien sûr, pas les mensonges par politesse, ni les mensonges par nécessité ou par calcul, mais les mensonges faits par goût, ou bien commencés par nécessité et développés par goût, par besoin de se travestir aux yeux des autres. Oui, ces mensonges-là ressemblent beaucoup aux songes de la nuit, et ils sont révélateurs, comme eux. D'ailleurs, je crois que les gens qui ne peuvent vivre que dans le mensonge, qui mentent pour mentir, sont tout simplement des êtres qui ont, toute la journée, la nostalgie de la nuit. Pour eux, mentir, c'est se rendormir un peu, c'est retrouver et reproduire en soi-même une certaine impression nocturne, c'est rêver les yeux ouverts. Mentir, c'est rechercher sa vérité de chaque nuit. La clé des mensonges, en somme, c'est encore la clé des songes.
Georges Neveu était bien placé pour brouiller les cartes entre clé des songes et clé des mensonges, puisqu'il est l'auteur du film tiré de sa pièce que termine actuellement Marcel Carné, Juliette ou la clé des songes.
Puisque nous en sommes à la chronique du cinéma, Marcel Achard et moi, nous allons vous parler du mensonge de tout ce qui tourne autour de la pellicule.
Ce n'est pas très prudent, Jeanne Marquen. Voici que s'avance un mauvais garçon, Francis Carco. S'il n'est pas un mauvais garçon, il a été en tout cas victime de leur mensonge.
Victime ? Non, complice. Complice d'une certaine équivoque. Je sais très bien qu'il n'y a plus de mauvais garçons. Mais laissez-moi croire qu'il en existe encore quelques-uns de vrais, ou des à peu près vrais. Cela est aussi recevable que la fameuse méthode d'un certain professeur qui persuadait ses malades que la vie n'était pas aussi moche qu'il le pensait. Les malheureux, mieux eût valu ne pas les guérir. Il faut savoir conquérir ces mensonges. Tout enfant à Châtillon-sur-Seine, à mon retour de la forêt, j'avais acquis la certitude qu'il n'existait plus nulle part de bêtes féroces, comme on voulait nous le laisser à croire. Mais des présences merveilleuses, je ne vais pas dire exactement le terme que j'employais alors car il est vrai, la présence des fées. Elles étaient à la lisière de la forêt, tout près de la Seine. Je les avais vues, je savais qu'elles bougeaient, qu'elles respiraient, qu'elles se troublaient, qu'elles grimpaient rapidement au sommet des arbres dans la dernière feuille tatinabulée. Je savais qu'elles étaient plus rapides qu'un écureuil, plus transparentes qu'une source. Et je les avais toujours autour de moi. C'était leur présence constante qui me guérissait de la peur que j'aurais dû avoir normalement. Car un jour, j'étais allé dans ces bois avec le fils d'un boucher qui était mon camarade de lycée, plutôt de collège. Ce garçon s'appelait Rodo. C'était un tueur de profession, il aimait tuer. Quand il allait en classe, quand il arrivait en classe, il avait déjà descendu 3 ou 4 moutons. Il me disait, Tu comprends, tu tiens le mouton dans tes jambes, ça te fait tout drôle. Il a une espèce de frisson et puis tout d'un coup, tu portes le couteau et il devient mou. L'autre fois, il avait attrapé avec un espèce de lasso sur un nid la femelle d'un pigeon ramier. Il l'avait descendu en amenant la ficelle à lui et il étouffait la bête devant moi en me disant « Regarde, c'est dur à mourir, hein, ces bêtes-là. » Eh bien, ce garçon-là, lui aussi était une exception. Lui aussi vivait dans un mensonge. Nous avons tous eu pour lui une sorte de terreur, mais qui était en même temps un émerveillement, parce que dans cette petite ville de Châtillon, les enfants se protégeaient des grandes personnes par des mensonges. Nous avions des coins à nous, la grande resserre du marchand d'orange quand les fêtes de Noël arrivaient. Il y avait la resserre du marchand de charbon, il y avait le marchand de barque. Il y avait au moment de l'hiver, quand tout le monde patinait, des prés mystérieux où on nous défendait d'entrer parce que la glace n'était pas assez forte, mais qui était certainement l'endroit que nous connaissions le mieux de toute la ville. Il y avait le petit tortillard qui longeait les faubourgs pleins de neige. C'est le même que j'ai retrouvé à Barbizon. Avec cette merveille de n'avoir pas changé d'âge. Il y avait pourtant 30 ans d'intervalle. Ce mensonge collectif des enfants de Châtillon-sur-Seine ne leur est pas d'ailleurs particulier. Je me souviens d'une traversée que mes parents me faisaient effectuer trop souvent de fois à ma guise entre la Nouvelle-Calédonie et Marseille. Nous embarquions avec les grandes personnes qui nous déposaient soigneusement entre les mains des nurses et des surveillantes. Et pendant 40 jours de traversée, nous n'étions plus mêlés à la vie des grandes personnes. Mais j'avais trouvé un moyen de rejoindre cet univers merveilleux dont je parle. C'était de m'éclipser, dès qu'on nous avait mis dans notre cabine, vers le fond du bateau, où là, j'ouvrais avec précaution une porte. Et j'entrais dans une grande pièce ronde avec un hublot. Et j'avais là une caille que j'avais réchauffée, que j'avais ranimée quand elle était tombée sur le pont du bateau en passant la mer Rouge. Et deux petits bengalis. La caille et les bengalis m'attendaient pour jouer. Les bengalis tournaient autour de la caille faisait ce qu'ils ne voyaient pas, et brusquement, elle se précipitait sur ses deux petits camarades qui partaient en voletant. En même temps, passait dans les hublots, dans une lumière phosphorescente, un poisson ailé. Et les petits camarades que j'amenais avec moi me disaient, tu vois, c'est toujours celui de la veille. Il revient. On avait des impressions assez fortes. Mais même le plus beau mensonge que j'ai pu avoir, c'est qu'en arrivant à Marseille, on m'a dit « Voilà ton grand-père ». J'ai embrassé poliment mon grand-père, mais j'ai pris ma mère ensuite à part, et je lui ai dit, sans pouvoir m'empêcher de garder ce mensonge pour moi, au moment, « Grand-père, qu'est-ce qu'il est vieux ? Quand est-ce qu'on le fout à l'eau ?» Car dans mon pays, on jetait les vieillards dans le jus. Il vaut bien mieux garder ses réflexions quand on a cet âge-là. D'ailleurs, mon grand-père ne me l'avait jamais pardonné. Et le plus beau mensonge auquel j'ai assisté, c'est encore un mensonge qui manquait la vie. En elle-même, elle est plus forte que tout. Ma grand-mère était morte. Toute la famille était réunie dans la chambre en larmes. À ce moment, le curé qu'on avait fait appeler, qui arrivait trop tard, arrive avec les saintes huiles et il dit « Oh, Madame Rousse !» Elle lui dit « Voyez, il est trop tard. » Il dit « Ça fait rien, je vais tout de même lui mettre des applications. » Il dit « Ça ne lui fait pas de mal, ça ne va pas lui faire de bien. Si ça ne lui fait pas de bien, ça ne va pas lui faire de mal. » Alors il lui met les applications. Et à ce moment-là, j'ai admiré ce que c'était, que la vie était une chose merveilleuse. Dans ses mensonges, dans ses tricheries, dans ses dissimulations, dans ses chances. Ma grand-mère n'a pas ouvert l'œil tout de suite. Elle a sorti la langue. Elle a passé la langue sur la lèvre supérieure. Elle a ouvert un œil. Et elle a dit au curé. Oh, curé! Faisant allusion à l'huile sainte. Elle est rance! Elle a appelé sa bonne et elle lui a fait faire une soupe à l'ail. Elle avait 74 ans, elle a vécu 17 ans de mieux. Voilà à quoi servent les mensonges. Un autre et dernier mensonge, si vous voulez bien. J'étais dans une salle de cinéma où on projetait le fameux film américain sur Jeanne d'Arc. Et il y avait à côté de moi toute une famille qui devait arriver de la campagne ou de la banlieue, qui s'émerveillait de voir des archers, de voir des côtes de mailles, de voir les échelles, la poix fondue, etc. Et qui brusquement sont tombés dans un grand silence réprobateur lorsque Jeanne d'Arc a été arrêtée. Elle a plutôt été faite prisonnière. Ces gens-là étaient complètement consternés. Ils se parlaient à voix basse, ils échangeaient des propos, et à la fin, j'ai entendu la vieille dame qui disait à son petit-fils, « Mais veux-tu pas me foutre la paix ? Je m'en fous ce que tu peux me raconter, qu'elle a été brûlée. Laisse-moi croire au moins qu'elle pouvait s'en tirer. » Eh bien, cette grand-mère avait raison. La plupart du temps, le rôle est tenu d'une façon tout à fait différente. Ce sont les vieux qui veulent que les enfants apprennent la réalité des choses. Et les enfants, ils sont rebelles. Il y a un peu d'espoir, à condition toutefois que les grands garçons foutent la paix, comme disait la vieille, à leur grand-mère.
Dans un coin perdu de...
Non, ne dites pas que vous ne connaissez pas cet air-là. Ne dites pas que vous ne l'avez jamais entendu. Personne n'échappe à la rengaine à la mode. Ni les millionnaires, ni les clochards, ni les ministres ne peuvent faire qu'ils ne rencontrent des gens dans la rue qui sifflent Étoile des Neiges, un poste de radio ou un gramophone par une fenêtre ouverte qui joue Étoile des Neiges, un mendiant dans une cour qui chante Étoile des Neiges.
Étoile des Neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment.
Chaque période là, sa rengaine. C'était naguère le petit vin blanc, la cabane au Canada. Il y a 2 ou 3 ans, c'en était une autre. On dit que les chansons expriment la sensibilité d'une époque, qu'elles cristallisent en quelque sorte les sentiments et les sensations que tout le monde éprouve plus ou moins intensément à certains moments de sa vie. La preuve, c'est qu'elles montent toutes seules aux lèvres, ces chansons, quelquefois sans même qu'on s'en rende compte. Vous venez de faire un joli coup, vous êtes content de vous, vous êtes là, en train de marcher allègrement dans la rue, les mains dans les poches, avec l'impression que des comme vous, il n'y en a pas beaucoup sur la surface de la terre, vous chantez même... Et puis, tout d'un coup, vous prêtez l'oreille à la chanson qui sort de vos lèvres.
Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse. Les hommes, je le crois, font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi.
C'est là le danger de la chanson, le grand mensonge de la chanson. Avec elle, on s'en tire à bon compte. On rit, on pleure, on éprouve un sentiment, on a une idée, hop, une chanson et on est quitte. Vous repensez à des amours enfantines, à la petite fille avec laquelle vous jouiez autrefois à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, et c'est fini, on n'y pense plus.
Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans.
C'est vrai, la chanson devient une espèce de bonne à tout faire qui dispense de tout, même de regarder. On n'a plus besoin d'y voir plus loin que le bout de son phono, puisque le disque pense pour vous, voit pour vous, sent pour vous. Oui, d'une certaine façon, il y a un mensonge de la chanson. Ou plutôt, un mauvais usage que l'on fait des chansons. On leur demande trop. On leur demande tout, y compris de remplacer la vie. Pourquoi ne pas prendre un peu plus de liberté avec elle, s'en servir au contraire pour compenser la réalité, pour la tirer dans l'autre sens? À ce moment-là, on entendra un bon géant, heureux de vivre et bien équilibré, fredonner.
Agité comme un roseau dans la tourmente, tout m'énerve et tout m'irrite en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé et sans courage, impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps.
Et le vieux petit employé qui part, le dos voûté, prendre son autobus sous la pluie, entonnera à tue-tête.
Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie, partout y'a de la, tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient, avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie, partout y'a de la joie.
En fait, les actualités sont nées en même temps que le cinéma. On pourrait même dire que le cinéma est né des actualités. Lorsque M. Lumière faisait admirer aux spectateurs du Grand Café la sortie des usines Lumière ou l'arrivée du train en gare de la Ciotat, ce n'était rien d'autre que des reportages. Les actualités cinématographiques possèdent donc un acte d'état civil et une date de naissance, le 28 décembre 1895. Elles ont commencé à mentir en 1896. C'est dire qu'elles étaient avancées pour leur âge.
Allons donc, la parole peut mentir, l'écriture peut être fausse, mais l'image, l'image est la vérité prise sur le vif.
En 1896, Méliès filmait la circulation place de l'Opéra lorsque son appareil eut une panne. En quelques minutes, Méliès eut effectué la réparation et termina sa bande. Or, au développement, il constata d'étranges phénomènes. La panne avait immobilisé la pellicule sur une seule image, mais bien entendu, sur la place, la vie continuait. Et à la projection, on s'aperçut qu'en moins d'une seconde, un petit garçon se changeait en grosse dame, un omnibus en corbillard et tout à l'avenant. Le mensonge de l'image était né.
Pour le cinéma, admettons. Mais les actualités?
Les actualités sont devenues un art. Et dans tous les arts, le mensonge est une nécessité.
Les forces américaines qu'on voit ici engagées dans la bataille ont à faire face à un ennemi nombreux et bien entraîné. Sur toute l'étendue de la ligne de feu, les combats augmentent en violence et la lutte a pris un caractère acharné que soulignent tous les correspondants de guerre.
Où voyez-vous du mensonge là-dedans?
Il y en a au moins un qui saute aux yeux, plutôt aux oreilles. Vous n'imaginez tout de même pas que les caméramens se sont promenés sur les champs de bataille avec des appareils d'enregistrement et un orchestre symphonique. Tout cela, c'est le décor, la présentation, l'ambiance. Et tout cela est fabriqué, donc faux.
Mais l'image, l'image est vraie, elle.
En valeur absolue, oui. Elle a été tournée dans l'immense majorité des cas sur les lieux mêmes de l'action.
C'est tout ce qui m'intéresse.
Mais ici encore intervient la présentation, donc le mensonge. Chaque image prise séparément est vraie, authentique. Mais l'ensemble, l'enchaînement...
Vous n'allez tout de même pas nous démontrer que la somme de plusieurs vérités peut donner un mensonge.
C'est à peu près ce que je veux dire. Prenez par exemple les actualités de guerre. Vous voyez un soldat en action, puis un char qui traverse un champ, puis un officier qui surveille la manœuvre. La juxtaposition des différents plans fait que le spectateur les associe, qu'ils participent à un même ensemble, alors qu'en réalité, ils ont pu être tournés à des dizaines de kilomètres de distance et à plusieurs jours d'intervalle.
On ne peut pas appeler cela un mensonge, tout au plus.
Tout au plus une petite liberté prise avec la vérité rigoureuse. Autre exemple, on voit des avions lâcher leurs bombes et le plan suivant vous montre à terre les effets terrifiants du bombardement. Or, il est bien évident que les opérateurs, soigneusement prévenus par les pilotes, n'ont pas été postés à proximité du but visé. Sans compter que le même caméraman peut difficilement se trouver à la fois dans l'avion et près de la cible. Les deux plans n'ont été rapprochés que pour les besoins de la cause.
Mais alors que reste-t-il de vrai? Le commentaire?
Le commentaire. Entre nous, les rapports entre l'image et le texte ne sont pas toujours très étroits. L'image souffre des délais d'acheminement et il est bien tentant de la rajeunir. Car enfin... lorsqu'on voit une colonne en marche sur une route, l'image ne dit pas si c'est vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis, il y a la manie du sensationnel que la presse écrite a communiqué à la presse filmée.
Le nouveau prototype qui chaque semaine est le plus rapide du monde. La famine qui est toujours la plus grave depuis 1925. L'ouragan ou l'incendie qui sont toujours les plus effroyables qu'on ait connus de mémoire d'homme. Les rencontres diplomatiques qui sont toujours d'une importance exceptionnelle. Le record d'affluence qui est battu chaque dimanche au Parc des Princes.
Et l'on pourrait parler aussi du mensonge par omission qui fait supprimer un détail trop cruel ou inopportun et qui fausse l'idée d'ensemble qu'une bande donne d'un événement.
Mensonge des mensonges, tout n'est que mensonge, c'est décourageant.
Mais non, tout cela participe d'une esthétique admise par tout le monde. Ce n'est qu'une question de perspective, un effort de synthèse et d'interprétation et traduire. C'est toujours un peu trahi.
Et si l'on en revenait à la vérité toute nue?
Tout le monde serait déçu. Au cinéma d'actualité, on demande non pas la vérité, mais des sensations. Les images seraient lentes, mornes, inertes, sans vie ni chaleur. Les actualités, comme le reste, sont une somme de mensonges honnêtes.
Le véritable professionnel de l'actualité, c'est le journaliste.
Le journaliste a l'air important dans son imperméable américain. Un huissier l'introduit, il se cale dans un fauteuil, et le carnet à la main pose des questions. Le personnage qui est assis derrière le bureau répond de bonne grâce. C'est souvent un homme de valeur. Il méprise peut-être la presse, mais il la craint. Elle s'intéresse à lui, il en est flatté. S'il n'est que vaniteux, il est prêt à toutes les bassesses pour obtenir quelques lignes louangeuses. S'il est honnête et convaincu de l'importance de sa mission, il essaiera par tous les moyens de faire du journaliste un allié. Quelle que soit son opinion sur lui, il le croit informé de tout et puissant. C'est un immense bluff. Le journaliste sait peu de choses et ne peut rien. Le public le décrit comme un demi-dieu pervers et corrompu. Ce n'est même pas cela. Si le journaliste entrevoit des parcelles de vérité, les raisons qui l'empêchent de les dire sont loin d'être celles que le public imagine. À supposer même que le journaliste entreprenne de détromper le public et de se justifier, on ne le croirait pas. On se refuserait obstinément à le comprendre. Aussi est-il condamné à porter sa légende. De Maupassant à Peter Chenet, toute une littérature en a fait son héros préféré. La moustache en croc ou le chapeau sur la nuque, le journaliste passe sa vie dans les salons, les wagons-restaurants ou les bars de Soho. Il n'a qu'un coup de téléphone à donner pour déclencher les rotatives, là-bas, dans un journal lointain, que l'on imagine surtout comme une source inépuisable de chèques.
Allô ? Allô ? La lumière ? Et ici Martin. Passez-moi le rédacteur en chef. Allô ? Allô, ponctuel ?
Allô ? Martin ? Ah, mais qu'est-ce que vous fichez, mon vieux ? Quoi ? Vous voulez vous reposer ce soir ? Oui, vous avez travaillé 15 jours à votre enquête sur la sécurité sociale. Oui. Eh bien, je viens de la lire, votre enquête. C'est qu'un fatras de considérations abstraites. Une vraie bouillie pour les chats. Permettez-moi de vous le dire. Soyez dans mon bureau dans 10 minutes.
Dès qu'il a retrouvé la salle de rédaction, Martin change de peau. Ce n'est plus qu'un petit salarié qui n'avait jamais assez de talent quand il s'est agi de l'engager, mais dont on traite la copie et les convictions avec une désinvolture proche du mépris. Il use le meilleur de ses forces à lutter contre un mensonge si pernicieux qu'il finit par se confondre avec la vérité. Car voici la réalité. C'est le lecteur et le lecteur seul qui oblige le journaliste à ne présenter jamais qu'un aspect de la vérité, c'est-à-dire à mentir. Que feraient tous les lecteurs si l'on parvenait vraiment à les éclairer? Ils ne se remettraient pas de l'épreuve. Ils ont besoin de leur mythe, de leur légende pour vivre, comme des intoxiqués. Que faire sinon obéir à cette demande insensée? Presse pourrie, dit-on. Peut-être. Mais le public seul l'a voulu. Lorsque le public accuse la presse, c'est sa propre maladie qu'il dénonce. Un aveuglement complet sur lui-même. Une peur panique de la vérité.
Bref, il suffit d'acheter tranquillement son journal tous les matins pour participer à un vaste mensonge. Moi qui ai débuté l'émission en engueulant les menteurs, je commence à ne plus avoir la conscience très tranquille. Yvonne Printemps et Pierre Freinet vont peut-être me remettre sur pied. Thierry Monnier les confronte avec trois personnages qu'ils ont interprétés à la scène ou à l'écran.
Oh, le théâtre, c'est nous. J'ai créé une pièce de Marcel Achard au théâtre. Savez-vous planter les choux? Et je vous assure que lui, il a beaucoup à dire sur les mensonges.
Ah non, non, trop tard, Jeanne Marquen. Voyez, les personnages d'Yvonne Printemps et Pierre Freinet sont déjà réunis.
Madame Hortense Schneider, sans doute. Fanny Grandpré, de Trois-Arts.
Voici Madame Émilie Lespard, d'auprès de ma blonde.
Enchantée. Monsieur de Paul, Vincent de Paul.
Oh, très honoré. J'ai vu un film sur vous.
On m'en parle souvent.
Monsieur de Boieldieu, de La Grande Illusion. Monsieur...
Hippolyte, des Jeux de l'autre.
Enfin, que nous veut-on?
Moi, on m'a tiré du lit.
Il est si désagréable d'être dérangé dans son travail.
Enfin, je disais de quoi s'agit-il, et il a gagné la guerre.
Nous sommes ici pour une conversation importante. Un peu de patience.
Et qui attendons-nous? Un homme?
Une femme?
Un couple. Un couple célèbre.
Roméo et Juliette, et Daphné et Chloé.
Nous attendons Yvonne Printemps et Pierre Freinet. J'ai pensé que nous aurions tous quelques questions à leur poser. Justement...
Nous voici. Hortense, Fanny, quel plaisir de vous voir. Oh, Madame Émilie, comme je suis heureuse. Et vous me ressemblez comme une sœur jumelle.
C'est que je n'ai jamais eu d'autre visage que le vôtre, chérie Yvonne Printemps.
Pierre, c'est Boieldieu, c'est Hippolyte.
Et c'est Monsieur Vincent.
Rassurez-vous, Pierre Freinet. Nous savons que vous avez beaucoup de travail, nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Vous savez que les comédiens ne trouvent jamais le temps long quand ils conversent avec leurs personnages. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Voici. Vous nous avez, pour l'écran ou pour la scène où vous avez incarné nos personnages avec un immense talent, pris nos identités.
Oui, cela s'appelle une usurpation de personnalité.
C'est là, évidemment, une espèce de mensonge.
N'allons pas trop loin, monsieur de Boieldieu, ce n'est pas du mensonge, c'est du théâtre. L'église de mon temps n'aimait guère le théâtre, auquel le cinéma ressemble beaucoup. Mais je crois qu'un film comme M. Vincent a semé dans le monde le bien plutôt que le mal. Et pour ma part, M. Freinet, je vous en remercie.
Et nous ne voulons pas vous demander des comptes.
C'est plutôt notre curiosité qu'il faudrait satisfaire.
Oui, vous êtes tous très différents les uns des autres et vous voudriez savoir par quel artifice, par quelle imposture, nous pouvons, nous autres comédiens, revêtir comme des vêtements des personnalités étrangères. N'est-ce pas cela?
C'est à peu près cela.
Croyez-vous qu'il s'agisse là d'une imposture?
Cela dépend naturellement des rôles. Quand vous avez joué mon personnage...
Tenez, vous êtes un bon exemple, Fanny Grandpré. Vous êtes, si j'ose me permettre de vous le dire, une personne assez redoutable, une peste coquette et méchante, une sorte de vampe. Ou du moins, vous faites semblant de l'être. Je me sens aussi loin que possible de votre caractère et de vos occupations habituelles. Il me semble pourtant que je vous ai joué sincèrement.
Et quand vous jouiez la valse de Paris?
J'avais peut-être plus de sympathie pour vous, Hortense Schneider, que pour Fanny Grandpré. Je me sens au moins avec vous un point commun, la gaieté. Mais je n'ai que peu de goût pour la vie, certes aimable et brillante, que vous avez menée sous le Second Empire. S'il fallait choisir entre vous trois, mesdames, celle qui est le plus moi-même...
Est-ce moi que vous choisiriez, madame Yvonne Printemps?
Sans aucun doute. Je choisirais la bonté, le calme, le bonheur. Je choisirais avec ses joies, ses mélancolies, ses douceurs et ses amertumes, la vie qui est la vôtre dans Auprès de ma blonde. Somme toute, une belle vie.
Et vous avez eu, pour trouver votre sincérité dans mon personnage, moins de difficultés à vaincre que pour entrer dans celui de ces deux dames?
Moins de difficultés? Non, certes.
Oh, comme je suis déçue.
Mais ce sont parfois les personnages que nous sentons le plus près de nous qui nous donnent le plus de travail.
Parlez-vous pour moi?
Oh non, non, monsieur de Beaulieu. Je sais qu'après La Grande Illusion, on a voulu me considérer, moi, le comédien qui avait joué Beaulieu, comme Beaulieu lui-même. Je traînais à la ville votre personnage d'aristocrate élégant et désinvolte jusque dans le courage. J'étais celui qui dit à l'écran, je dis vous à ma mère et vous à ma sœur. Faut-il vous dire que c'est pas là, mais pas du tout mon style. Savez-vous, monsieur de Beaulieu, que rien ne me plaît comme de bêcher moi-même mon jardin?
Oui, oui. En somme, vous seriez plutôt un homme dans mon genre.
Pas du tout. Ah. Désolé d'avoir pu vous en donner l'impression. Mais la grande vertu du comédien, c'est la souplesse. Nous avons souvent entré dans des pots qui ne nous semblent pas tout à fait sympathiques. Oh ben, je ne dis pas ça pour vous, bien entendu, chéri Pau. Mais même dans ce cas, nous devons le faire honnêtement.
Oui, mentir honnêtement.
Mais quand vous avez joué, monsieur Vincent, tout le monde a crié au miracle de l'identification. Ne s'agirait-il pas cette fois d'un personnage qui vous était fraternel?
Ah, qui n'aimerait, monsieur Vincent? Moi aussi, je l'ai aimé. Mais comment pourrais-je vous dire que je me sentais proche de ce saint admirable? N'oubliez pas que je suis d'hérédité huguenote. Hein. Cette fois encore, j'étais très loin de mon personnage. On est toujours très loin de son personnage.
Alors Diderot a raison. L'art du comédien ne serait qu'une habile technique de la simulation.
Diderot n'a pas raison. Pourquoi ne pourrait-on pas jouer un personnage et savoir qu'on le joue, et pourtant être sincère dans ce personnage? J'en appelle à toutes les femmes.
Toutes les femmes vous approuvent. Il n'y a pas dans le monde...
Ni dans le demi-monde...
Une femme qui ne soit un peu comédienne.
Vous vous rappelez ma chanson des trois vannes?
Voyons, bien sûr. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit.
Oh, quel dommage que je ne chante pas.
Oh oui, quel dommage.
Vous avez dit que toutes les femmes pouvaient comprendre la sincérité du comédien. Tous les enfants aussi. La sincérité du comédien est une sincérité seconde, pareil à la sincérité des enfants dans le jeu.
Le mot est le même. L'enfant joue, le comédien joue.
L'enfant renverse trois chaises dans la salle à manger et en fait un bateau de corsaire. Il sait qu'il n'est pas un vrai corsaire.
Et pourtant, il croit à son jeu.
Le comédien sait qu'il n'est pas le personnage dont il a revêtu l'apparence.
Et pourtant, il vit les situations et les passions de ce personnage.
Et cela n'empêche pas de noter qu'il manque une ampoule à la rampe.
Ou que son partenaire a reculé vers le fond de la scène d'un pas de trop.
Il est dans l'état de dédoublement. Il vit en même temps le faux et le vrai.
Et le faux est alors plus vrai que le vrai.
Oui. Le jeu du comédien est tout simplement un jeu, et c'est pourquoi...
C'est pourquoi?
Ben c'est pourquoi la plus grande erreur est de le prendre trop au sérieux.
Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que je suis. Au cinéma qui les dispense.
Comme fond sonore, on peut difficilement imaginer mieux que la symphonie numéro 7 de Beethoven. Soutenue par ses accents, la voix humaine, la mienne en l'occurrence, prend une ampleur qu'elle n'a pas la prétention d'avoir. Celui qui contesterait la beauté de cette musique se ferait lyncher par les milliers de fervents qui, hebdomadairement, vont se recueillir à chacun des 25 cycles Beethoven.
Voici maintenant Wagner, autre cheval de bataille des concerts dominicaux. Qui donc parle de mensonge à propos de Beethoven ou de Wagner? Le fait qu'au seul nom de Beethoven ou de Wagner, la foule se recueille répond de la valeur éternelle de leurs œuvres. Mais cependant, cette même foule, la foule qui vivait du temps de ces créateurs géniaux, comment a-t-elle accueilli la naissance de cette musique qui l'enchante aujourd'hui et qu'elle tient pour la musique tout court? La foule a-t-elle été tout de suite dans le vrai? Ce qui semble être une éclatante évidence pour nos mélomanes contemporains, n'est-ce pas l'exemple type de la vérité rétroactive? Cher public d'aujourd'hui, fidèle de nos salles de concert, défenseur acharné des grands génies, veuillez écouter sans trop de déplaisir cette critique rédigée par un homme qui se faisait votre interprète, qui était l'un des vôtres. Voici ce que pensait de Wagner en 1860 Monsieur Azavedo du journal L'Opinion Nationale.
Musique sans mélodie, chaos, harmonie détestable. L'orchestration, mauvaise en elle-même, produit une sonorité puissante, une sorte de fièvre acoustique. Un sonorisme sans idée qui fait souffrir sans compensation d'aucune sorte.
Puis voici ce que pensait M. Fiorentino du Constitutionnel en 1860.
L'ouverture du vaisseau fantôme est une série d'accords stridents, de sifflements aigus, de grincements de cuivres enragés sans aucune trêve, aucun repos pour l'oreille. Si l'auteur a voulu peindre une tempête, il en a au moins rendu l'effet le plus pénible, cela donne le mal de mer.
De commettant dans le siècle.
Je déclare monstrueuse cette musique sans idée et bâtie sur un faux système autant que je trouve répugnante les amours pharmaceutiques de Tristan et Isolde. C'est un parjure au bon sens et à tous les sentiments délicats qu'un pareil art, qui ne pourrait trouver de partisans qu'à notre époque de surexcitation nerveuse, d'assommoir en tout genre, d'alcoolisme, de névrose et de grande hystérie.
Alors, oh, diront quelques-uns, voilà des phrases idiotes qui datent de 90 ans. Il est bien facile de choisir quelques critiques parmi 100. J'aurais pu exhumer ces 100 critiques, elles sont toutes les mêmes. Sans doute pourrais-je trouver une louange parmi ces éreintages, mais à l'époque, leurs auteurs étaient jugés aussi sévèrement que cette musique dont ils parlaient. Il y a aujourd'hui dans le monde des compositeurs dont le génie égale peut-être celui de Wagner. Comment leurs œuvres sont-elles accueillies par leurs contemporains? Martinu, Hindemith, Béla Bartok, Markevitch, Alban Berg, Webern, Prokofiev, Messiaen, Schoenberg, qui parlaient votre langage authentique d'homme d'aujourd'hui. Parlez-vous seulement comme vos aînés pour les hommes de demain. Hélas, les hommes qui injuriaient les génies du 19e siècle sont toujours là pour injurier les génies du 20e. C'est la même incompréhension, la même colère sacrée. Tout y est, jusqu'aux mots, aux phrases qui sont calquées. On change les noms propres, les dates, et l'injure est toujours valable. Nous évoquions tout à l'heure Beethoven et Wagner. Il ne s'agit pas de trouver leur pendant. Mais on peut affirmer qu'Olivier Messiaen est un musicien authentique. Écoutons quelques mesures d'une de ses œuvres, les petites liturgies. Henri Sauguet accueillait naguère Messiaen comme un nouveau Wagner, comme le nouveau Wagner de notre temps. Eh bien, voici ce que pensait de ce nouveau Wagner le critique musical Claude Rostand en 1946.
Le cas Messiaen ne relève plus de la musique, mais de la psychopathologie. Ce compositeur, qui veut se faire passer pour un révolutionnaire, n'apporte en musique rien d'essentiel qui n'ait déjà été dit, de Massenet à Raoul Moretti. Monsieur Messiaen est certainement une nature, un tempérament. Mais alors, ce n'est plus ici le domaine du critique musical. Déterminer cette nature, en apprécier la valeur, en analyser les éléments qui la composent, du mysticisme à la sexualité, ressortit plutôt à la compétence du moraliste ou du psychiatre.
Et plus tard, il ajoute...
Si M. Messiaen me parle des oiseaux qui avalent du bleu, je lui réponds simplement par les 5 lettres qui rendirent célèbre le général Cambronne, car ou bien il me prend pour un imbécile, et alors je suis en droit de le considérer comme un fripon, ou bien je crains pour sa raison, et son cas relève, en ce qui concerne son œuvre littéraire, de l'infirmerie spéciale.
Voici encore Le Figaro, qui se fait l'interprète de la foule, par l'entremise de Clarendon.
Que trouvons-nous dans la musique de Messiaen? Un ambitieux dessein. Exprimer l'inexprimable, un sens critique égaré. Un auteur savant, prisonnier de ses formules et de son système, s'efforçant à traduire les sublimes outrances de l'Apocalypse par le double moyen d'une littérature opaque et d'une musique à odeur de silice dont on ne saisit ni l'utilité ni le charme.
Que faut-il conclure à la lecture de ces critiques d'hier et d'aujourd'hui qui seront celles de demain ? Que le public est démodé, qu'il a toujours un siècle de retard sur son temps, qu'il ment à son temps, qu'il se ment à lui-même. Et ce mensonge durera tant que les musiciens d'aujourd'hui ne brandiront pas ces vieux articles qui unissent les idoles d'aujourd'hui pour inspirer un semblant de respect des idoles de demain.
Après ce mensonge de toutes les époques, le mensonge d'une époque. Jean-François Noël se fait annoncer par un titre « Faux seins et jambes de bois » et un sous-titre « Ma guépière et mes trop longs jupons ».
Les hommes ont une mémoire d'enfant. Et les enfants, ça trompe énormément. J'apprends que les nourrices sont mortes et que leur lait a mal tourné. On me dit que rien ne vaut actuellement le lait condensé, concentré, sucré. Et que les enfants s'élèvent tout seuls, pas très haut peut-être, mais tout seuls.
Pour apaiser l'enfant qui ce soir n'est pas sage, aiglé, cédant enfin, dégrafe son corsage d'où sort globe de neige, un sein gonflé de lait.
En effet, où sont-ils, les beaux biberons de notre enfance? Jusqu'à quel point aujourd'hui l'enfant, l'amant ou le mari peuvent-ils faire confiance, mesdames, à vos fausses poitrines? C'est là, me direz-vous, le secret des grands explorateurs. Elle avait une jambe de bois, et pour que ça ne se voit pas, elle avait mis par en dessous une rondelle de caoutchouc. Vains artifices de l'amour, pieux mensonges, lumière tamisée et jeu de dupes, dessous, sans dessus dessous.
Grâce à la mode, on n'a plus de corset. Oh, que c'est commode. C'est plutôt fait.
Alors adieu, pantalons clos comme des coffres-forts, adieu froufrou, chichis élastiques, adieu pression, adieu guépière, balconnet, épaulette, abris abattus, adieu jarretière, jartelle, tournure, gaine, redoute, créneau, dédale, piège à rat pour souris, faites-moi sauter tous ces boutons. Et nous verrons dans les champs s'envoler les bonnets par-dessus les moulins. Et ça se chantait déjà sur l'air de la Marseillaise. Refrain.
Plus de corsets, plus d'esclavage, que ces tyrans soient les derniers, de l'oppresseur brisons la cage, élargissons les prisonniers.
De l'oppresseur brisons la cage, élargissons les prisonniers. Ah, fierotte guigne, petite cerise aigre, destinée au vinaigre, orgueilleuse moustachue, futur fée carabosse. Vous, qui vous promenez dans les rues comme des carrosses du Saint-Sacrement, avec tout le barda, tout l'attirail des grandes manœuvres, voilettes, parapluies, agressifs et tout le béguinage, corsage boutonné jusque-là, la bouche mauvaise, pincée, furieuse, toujours pressée, quand je vous parle dans la rue, comme je voudrais qu'un jour devant moi, vous glissiez sur une peau de banane.
Quoi, vous voulez, cruelle, si belle telle qu'elle, en revenir à vos cages à vous? Seigneur miséricorde, ces crinolines, c'est à fuir de ce pas dans les pampas.
Oui, ce serait bien bon de rire encore dans le soleil des déjeuners de Barbizon. Édouard Manet, qui savait mal mentir, les dénuda sur l'herbe, toutes les grisettes du Second Empire, sur le gazon. Ah, elles s'en portent pas plus mal. Nous avons fait litière de ces tromperies, de ces trompe-l'œil pour rincer l'œil de qui?
Et je ris de vous voir si belle dans vos miroirs, quand enfin vaincue, tordue, aplatie, ratissée, ratatinée, morte, percée de part en part, par nos carquois bourrés de flèches, vous pouvez sans détour et sans ces falbalas nous montrer vos richesses. Vos trésors, enfin quoi, le petit capital. Et qu'on se dit, ça n'était que ça. Oh, il n'y avait pas de quoi chanter la messe.
Après tous ces mensonges vrais, ces mensonges faux, les gais, les tristes, je ne sais plus très bien où se raccroche encore la vérité. Marcel Achard et Jeanne Marquen vont peut-être nous le dire.
Marcel Achard vient d'entendre défiler ses aveux, ses accusations, ses coups de botte et ses parades. Il a écouté Georges Neveu, Francis Carco, Paul Guimard, René Guilly, Thierry Monnier, Yvonne Printemps, Pierre Fresnay, Jean-François Noël. Il a entendu les voix de Jean Negroni, Pierre Reynal, Pierre Olivier, Nelly Benedetti, Jacqueline Moral, Marcel Tassancourt, Pierre Leproux, Jean-Henri Chambois, Robert Vattier, André Laurière. Il vous a entendu, vous, Yves Montand, qui présentiez tout le monde. Il a médité longuement, et voici sa réponse. Écoutez-la, elle est pleine de signification. Ce silence n'est pas un silence, ni un incident technique. Vous venez d'entendre la seule vérité humaine.
Moi, je m'en fous, je m'en contrefous.
La radiodiffusion française vient de vous présenter La clé des mensonges. Une production de Gérard Herzog présentée par Yves Montand. Collaboration artistique, Max Gesveller.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 21 janvier 1951. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.